Fesses à l'air, l'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Vous savez comment on baisse dans un hardcore ?
Sensualité.
Vous êtes une pute.
Désir.
C'est vrai que c'est dégueulasse.
Sexe.
Petite cochonne.
Amour.
Je veux te faire bander pour que tu me baises.
Intimité.
Qu'est-ce qu'il y a ? Ta femme ne t'a jamais sucé ?
Non.
Érotisme.
Montre-moi ta queue.
Oh, Dieu, je...
Montre-la.
Les fesses à l'air.
Tu ne diras pas à votre papa.
Le 11 décembre 2009, j'ai rendez-vous au centre de dépistage du Figuier pour chercher mes résultats. Je suis confiant, je passe toujours entre les gouttes. Le docteur me reçoit et m'annonce « Le résultat n'est pas celui qu'on espérait. Le test est revenu positif. » C'est le choc de ma vie. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, j'ai 37 ans, en couple depuis bientôt 5 ans et heureux. Si je pouvais faire un voyage dans le temps, je reviendrais à cette soirée terrible du 11 décembre 2009. Je prendrais la main au Fred du passé et je lui dirais ça. Sèche tes larmes, mon grand. Ta vie va changer, c'est vrai, mais pas comme tu le redoutes tant. Tu vas devenir plus fort, tu auras plus d'empathie pour les autres. Tu vas subir des rejets, mais tu vas transformer cette épreuve en quelque chose de constructif. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas t'engager contre le VIH. Tu vas te découvrir une âme de militant. Tu vas marcher à la Pride avec un t-shirt, séropo et fier, entouré de ton mec et de tes potes. Tu vas aimer, rire, pleurer, baiser. Rien ne sera plus jamais pareil, mais au final, tu vas préférer ta nouvelle vie après le VIH. Sèche tes larmes, mon grand. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Fred, le premier jour du reste de ma vie. Chers auditeurs, chères auditrices, public chéri, bonsoir. Vous êtes sur les ondes langoureuses de Radio Campus Paris dans l'émission Les Fesses à l'air et ce soir, nous allons parler du sida. Alors j'en entends déjà quelques-uns soupirer, moi la première quand Dania m'a proposé la thématique. On a l'impression de tout savoir, on se rappelle des cours de SVT, des heures de prévention plus ou moins subies au lycée. Mais voyez-vous, finalement en préparant cette émission, je me suis dit que je n'y connaissais rien. Et oui, je suis née en 1989, j'ai grandi avec le scandale du sang contaminé. Mes parents parlaient souvent de leurs amis séropos, ceux qui étaient morts, ceux qui vivaient encore. Mais bizarrement, pour moi aujourd'hui, à 30 ans, le sida, c'est loin. Le sida, c'est fini. J'ai intégré la capote dans ma vie sexuelle comme un truc un peu chiant mais nécessaire, dans la même case que le parapluie qu'on met dans son sac. C'est relou, mais on sait jamais. Alors oui. Oui, il faut encore parler du sida pour que l'épidémie recule, pour faire tomber les préjugés contre les personnes séropositives et pour dire et redire qu'aujourd'hui, avec ou sans le VIH, on vit, on rit, on aime et on baise.
Les fesses à l'air.
L'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Mais tu es un vrai puceau.
Les fesses.
Alors pour discuter de tout ça, nous avons le plaisir d'être accueillis ce soir dans les locaux de Solidarité Sida, que l'on salue tous chaleureusement, et nous recevons son directeur des programmes, Florent Maréchal. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va bien ?
Ça va super, merci.
Et nous recevons également de Solidarité Sida, Pauline Duverger, coordinatrice prévention. Bonsoir.
Bonsoir.
Également dans ce studio improvisé, nous avons Fred Le Breton, community manager de Vert Paris sans Sida. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, on peut même se tutoyer, activiste de la lutte contre le sida et blogueur. Vous êtes donc l'auteur, enfin tu es l'auteur, j'ai tout mis en vous donc ça va être difficile, mais je vais mettre à tutoyer, c'est
ouais,
sûr.
C'est plus simple.
Tu es l'auteur du très beau témoignage que j'ai lu en début d'émission et qu'on peut retrouver sur ton blog, dont tu vas nous redire l'adresse parce que je ne l'ai plus en tête.
Alors c'est fred-du6colby.com.
Très bien, donc ça va bien aussi.
Oui, très bien, merci.
Autour de cette table, la magnifique et rayonnante Dania, comme d'habitude.
Salut Lorraine.
Mais aussi la frémissante Élodie, l'espiègle Maxime qui va finir par arriver, et toute la joyeuse bande de Radio Campus Paris, ainsi qu'une partie de Solidarité Sida. Aux manettes, c'est Lorna qui pilote le vaisseau en toute dextérité. Les fesses à l'air, c'est parti, et on commence par les bases avec Fred et Jamie.
Comme n'importe quel virus, lorsque le VIH pénètre dans l'organisme, il est d'abord escorté par les macrophages jusqu'au quartier général où les lymphocytes T4 vont vérifier son identité. les lymphocytes T4 vont déclencher l'alarme. Ils vont demander aux lymphocytes B de produire des anticorps. Seulement voilà, le temps de produire des anticorps, le virus a déjà pénétré dans les lymphocytes T4.
Résultat, la cellule fonctionne toujours, elle défend l'organisme, mais en même temps, elle produit des virus.
Ah oui, mais c'est pas ça le sida. Ah,
t'as raison, c'est pas ça le sida. Ça, c'est le stade précédent, c'est ce qu'on appelle la séropositivité.
Ben oui, parce que le sida, c'est après les lymphocytes T4. Ils produisent du VIH, qui est de plus en plus nombreux dans l'organisme. Eh bien, il va arriver à un moment où les lymphocytes T4 vont en mourir, y compris ceux qui ne sont pas infestés.
Et alors ?
Ben et alors ? S'il n'y a plus de généraux pour commander la défense, si un intrus pointe son nez, eh ben il va pouvoir faire tous les dégâts qu'il veut.
Le moindre petit microbe et c'est la catastrophe ?
Oui.
Et oui, le moindre petit microbe et c'est la catastrophe. Donc c'était pour un petit rappel des bases. Alors peut-être pour commencer, pour dire et redire que, non, comme je le croyais que l'épidémie était finie, ben en fait non, pas du tout. Est-ce que, Florent, peut-être on peut redonner un peu, faire un état des lieux du sida en France et puis aussi dans le monde ?
Alors effectivement, comme tu le disais, l'épidémie n'est malheureusement pas terminée. On en est même encore loin, puisque aujourd'hui, on compte à peu près 37 millions de personnes dans le monde qui sont des personnes qui vivent avec le VIH. Seule la moitié ont accès au traitement, mais je pense qu'on y reviendra dans le cours de l'émission. Et en France, c'est aujourd'hui 170 000 personnes qui vivent avec le VIH. C'est toujours entre 6 et 7 000 contaminations annuelles. Donc c'est pour dire qu'effectivement, ce n'est pas terminé, puisque malgré les efforts de prévention, malgré la sensibilisation, on voit que ce chiffre ne diminue pas. Et on a toujours, on estime à peu près 25 000 personnes qui sont porteuses du virus, mais qui ne le savent pas.
Oui, d'accord. Donc, parce que pourquoi ?
Parce que on dépiste beaucoup en France, on est même les champions européens du dépistage, mais on dépiste pas toujours bien. Et donc, on ne cible pas assez, en fait, le dépistage, au point que des personnes, aujourd'hui, ont soit des pratiques à risque, soit ont été, justement, en confrontation avec le virus et ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas recours au dépistage.
Alors, justement, quelles sont les populations qui sont les plus touchées de par ces 6000 nouvelles contaminations annuelles ?
Alors, globalement, au niveau du... Enfin, c'est valable dans le monde entier, c'est ce qu'on appelle les populations clés, où c'est des populations qui sont particulièrement vulnérables face à la contamination. On parle des populations LGBT+, en particulier le public HSA, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est également les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogue par voie injectable, les migrants ou encore les détenus. Ça, c'est ce qu'on appelle les populations clés qui sont vraiment particulièrement à risque. On peut y ajouter, c'est moins vrai en France que par exemple en Afrique subsaharienne, on peut y ajouter les femmes et les enfants qui sont particulièrement touchés. En Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, c'est même la première cause de mortalité, le sida, et elles sont deux fois plus impactées, deux fois plus touchées que les hommes. En ce qui concerne la France, on retrouve aussi ces populations qui sont particulièrement vulnérables. C'est encore plus vrai pour les HSH, donc les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les personnes migrantes qui, contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qui peut être dit des fois, ne viennent pas, on entend même des fois, ils viennent avec le VIH pour profiter du système de santé français. Non, c'est faux. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui le montrent, que la moitié, voire même plus de la moitié des personnes qui sont migrantes, en fait, sont contaminées sur le sol français et en particulier sur le sol francilien et notamment à Paris.
D'accord. Ouais. Donc c'est donc les populations migrantes qui sont particulièrement. Effectivement, j'avais lu aussi sur le site de Solidarité Sida qu'il y avait aussi beaucoup des diagnostics qui étaient faits en Île-de-France. Donc la région Île-de-France est particulièrement touchée.
C'est la région la plus touchée en France. Après la région Île-de-France, il y a également la région PACA et ensuite les DOM-TOM qui sont aussi particulièrement touchés, notamment les départements français des Antilles, en particulier la Guyane, qui est aujourd'hui un département qui est particulièrement touché. Mais oui, effectivement, la région francilienne est la première région touchée par le VIH et par les contaminations.
Élodie.
Vous avez évoqué les 25 000 personnes qui ne se font pas dépister ou qui sont probablement porteurs sans être dépistées. Quelles sont ces populations qui sont touchées et qui ne se font pas dépister ? Est-ce qu'on sait qui n'est pas assez sensibilisé pour aller aux tests de dépistage ?
Bah, certainement les populations les plus à risque, puisqu'on sait qu'il y a une incidence, donc une proportion de personnes qui peuvent être porteuses plus importante que dans la population générale. Donc assez logiquement, on se dit que les personnes qui sont porteuses du virus mais qui ne le savent pas concernent principalement ces populations vulnérables.
Alors aujourd'hui, concrètement, quand on est dépisté avec le VIH, qu'est-ce qui se passe? Moi, je reste un peu, encore une fois, avec ces images qui étaient marquantes d'avoir beaucoup de traitements, je ne sais pas combien de cachets à prendre par jour. Comment ça se passe aujourd'hui concrètement quand on est dépisté avec le VIH, Fred?
Oui, je veux bien parler justement parce qu'il y a des représentations autour de la vie avec le VIH. Moi, quand j'ai découvert que j'étais séropositif en 2009, les images que j'avais en tête, c'était Philadelphia. Donc, c'est Tom Hanks qui prend 25 cachets par jour et qui finit par mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, il n'y avait pas vraiment de mise à jour par rapport à la réalité. Il faut savoir que depuis 1996-97, on a accès aux trithérapies. Donc, c'est les nouveaux traitements qui permettent de vivre avec le VIH, d'avoir une espérance de vie normale. Aujourd'hui, les traitements VIH, c'est un ou deux cachets par jour pour la plupart des gens. Donc c'est considéré comme une maladie chronique, donc un traitement comme le diabète par exemple, avec des effets indésirables certes, mais on peut vivre avec, on peut avoir des enfants, on peut travailler, on peut avoir une vie amoureuse, sexuelle, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, n'est pas assez connu et qui mérite d'être dit, parce que beaucoup de gens ne se font pas dépister parce qu'ils ont peur. Voilà, ils ont peur, le sida pour eux c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance, alors qu'aujourd'hui, normalement, en France, il n'y a pas de raison d'être en stade sida quand on est dépisté et qu'on est traité. Voilà, on est porteur du VIH, on a une maladie chronique, mais voilà, il n'y a pas de raison, on n'a pas de raison d'être en stade sida. Le stade sida, c'est les gens qui ne sont pas dépistés et qui, au bout de plusieurs années, donc développent des maladies opportunes.
Alors, on reviendra dans la deuxième partie d'émission aussi plus précisément sur tous ces nouveaux traitements avec des acronymes PrEP, TASP, ouais, tout ouais, ça. Ouais. Mais Dania avait une question.
Mais moi, j'ai envie de savoir dans le monde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un chiffre qui est quand même assez marquant. En 2007, 36,9 millions de personnes sont porteuses du virus. Presque un million de personnes sont mortes à cause du sida. C'est un virus qui est encore présent, qui tue encore. Et comme le disait Lorraine très bien, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Florent.
Alors, c'est effectivement... c'est toujours d'actualité. Alors après, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs visages de l'épidémie aujourd'hui. D'abord, une vraie question géographique, et il y a des inégalités régionales, sous-régionales extrêmement importantes. Aujourd'hui, les régions qui sont les plus touchées, ça reste l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire qu'on considère que les deux tiers des personnes qui sont séropositives dans le monde sont situées sur le continent africain, et ça concerne encore deux tiers des nouvelles contaminations. Vous avez justement, tu as donné des chiffres, 1 million de décès. On a enregistré encore l'année dernière 1 800 000 nouvelles contaminations, nouveaux diagnostics. Les deux tiers sont situés sur le continent africain. Néanmoins, il y a des efforts importants qui sont menés aujourd'hui sur ce continent. Et là, on a des vraies différences entre l'Afrique dite anglophone, donc c'est beaucoup l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui est très en retard dans la riposte au VIH, ne serait-ce que la mise sous traitement. Les chiffres ne sont absolument pas les mêmes entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, par exemple. Ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'il y a deux régions dans le monde aujourd'hui où la dynamique, ce qu'on appelle la dynamique épidémiologique, c'est-à-dire le suivi, la veille qu'on peut faire sur la veille sanitaire sur le suivi de l'épidémie. Il y a deux régions où c'est particulièrement inquiétant, c'est la région MENA, donc c'est le Maghreb et le Moyen-Orient, et l'Europe orientale, qui sont des régions où, depuis 10 ans, on enregistre une augmentation du nombre de décès, une augmentation du nombre de contaminations. Les 10 dernières années, pardon, on enregistre près de 35% d'augmentation du nombre de contaminations.
On ne le sait pas, mais il y a aussi un foyer qui est l'Asie du Sud-Est, l'Asie Pacifique. Et c'est un foyer très important. Et quand on a des préjugés autour du sida et on ne se rend pas compte qu'il y a un foyer qui est très important dans cette région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, il y a un foyer qui est important. Enfin, en tout cas, il y a effectivement beaucoup de personnes qui sont porteuses du virus également en Asie, mais néanmoins il y a eu des efforts importants qui ont été menés dans la mise sous traitement. Grâce, ça fait partie aussi des pays dans lesquels les génériqueurs sont arrivés et donc ont permis un accès au traitement. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui si on prend la région du Maghreb et du Moyen-Orient ou de l'Europe orientale.
Et pourquoi au Maghreb par exemple il n'y a pas de prise en charge?
Justement, exactement, j'en viens à la deuxième spécificité qui est là, on en parlait tout à l'heure sur on va dire l'approche populationnelle, les publics qui sont particulièrement touchés, on en a parlé, des publics vulnérables. Il s'avère que dans ces régions-là, le point commun qu'il y a entre le Maghreb, le Moyen-Orient et par exemple l'Europe orientale, c'est que ce sont des publics qui sont particulièrement discriminés, particulièrement stigmatisés, et donc forcément sont beaucoup plus fragiles par rapport au risque de contamination. 90% des nouvelles infections au Maghreb et au Moyen-Orient, ce sont au sein des populations clés. En Russie, on enregistre 50% d'augmentation annuelle des contaminations chez les usagers de drogue. Le point commun, c'est qu'un usager de drogue par voie injectable en Russie, bah, il n'a pas le droit de citer, il est totalement mis à l'écart de la société, et l'État ne s'en occupe pas, c'est-à-dire, il n'est même pas considéré comme un être humain. Donc vous imaginez que si en plus il est porteur d'un virus, et on retrouve la même chose aussi au Maghreb et au Moyen-Orient avec les homos, avec les prostituées qui globalement ne sont pas considérées comme des êtres humains.
Alors, en France, il y a des progrès énormes qui ont été faits, notamment au fil de l'histoire, grâce au travail militant de toutes les associations de lutte contre le sida. Et un film qui a dû sortir l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a justement retracé notamment l'histoire d'une des associations, ACT UP.
2017. Et Catherine de Médicis demande à Ronsard...
Bonjour tout le monde, nous sommes ACT UP Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer.
Non, mais qui vous a donné l'autorisation?
Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation.
Regardez pas ça.
Il faut savoir que le risque existe bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin.
Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre.
Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous.
Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements.
Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative.
Je risque pas de choper votre connerie de sida, hein. Je suis pas fêlée.
À ACT UP Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
Donc c'était la bande-annonce du film 120 battements par minute, donc qui est sorti en 2017, merci pour ce bête. Alors ça illustre effectivement tout le travail qui a été fait, alors par ACT UP, mais en fait par toutes les associations de lutte contre le VIH. Et du coup ma question un petit peu c'est, qu'est-ce qui a été obtenu concrètement? Qu'est-ce que toutes ces associations, qu'est-ce qu'elles ont permis en 25 ans, 30 ans de lutte? Fred?
Plein de choses, à commencer par l'accès au traitement pour tous. Il faut savoir que quand les trithérapies sont arrivées, donc en 95-96, il y avait une loterie qui était mise en place. Donc ACT UP s'est battu pour que tout le monde puisse avoir accès au traitement. Il n'y a pas si longtemps, d'autres assos comme AIDS se sont battus pour que l'accès au traitement pour l'hépatite C pour tous puisse avoir lieu aussi, puisque c'est pareil. Il y avait certains laboratoires qui avaient mis en place des prix tellement chers que voilà, il fallait être hépatite C aiguë pour pouvoir avoir accès au traitement en fait. Donc voilà, il y a ça. Il y a un plaidoyer qui est fait aussi de façon générale. Il y a une lutte contre la sérophobie, contre les discriminations. Voilà, il y a plein de combats qui sont menés pour la prévention diversifiée aussi. AIDS s'est battu pour l'accès à la PrEP aussi.
C'est quoi la prévention diversifiée?
Alors la prévention diversifiée, c'est une approche globale de la prévention contre le VIH. Pendant longtemps, les gens se sont, on fait un focus sur le préservatif. Donc effectivement, le préservatif, c'est bien parce que ça protège du VIH et des IST. Malheureusement, les chiffres sont là, l'épidémie du VIH en France, elle ne baisse pas. On a les mêmes chiffres depuis des années. Donc en fait, on s'est rendu compte que il fallait au-delà du préservatif, puisque aujourd'hui les populations les plus exposées au VIH, entre autres les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, n'utilisent pas le préservatif de façon systématique. Donc la PrEP, c'est un traitement préventif, une molécule qui permet donc de bloquer donc le virus lors d'un rapport sexuel à risque. La PrEP, il y a eu une étude en France qui a duré 4 ans, de 2012 à 2015, qui s'appelait Hypergay, qui a démontré l'efficacité de la PrEP. Il y a eu d'autres études, évidemment, aux États-Unis, etc. Mais c'était pas évident. Voilà, pas évident.
Et les associations ont poussé à chaque fois pour que soient entreprises ces études et mises en place ces recherches.
Exactement. Et en France, on a eu la chance qu'en janvier 2016, le gouvernement donc rembourse à 100% l'accès à la PrEP, même si aujourd'hui, il y a encore des détracteurs, même au sein de la communauté gay, etc., anti-PrEP. On sait qu'à Londres, à San Francisco, dans d'autres villes, la PrEP fonctionne et permet donc de faire baisser l'épidémie du VIH.
Alors on reviendra sur la PrEP et tout ça et les problématiques que ça peut poser. Tout de suite après une petite pause musicale, une petite pause musicale, on va écouter « C'est pas du gâteau » de Mano Solo.
Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents dans les jours où c'est un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. J'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment enquêtera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure qu'elle est tout haut, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure que l'est tout haut, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmots. Pour l'heure que l'est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau.
Et c'était Mano Solo, c'est pas du gâteau. Donc Mano Solo qui est décédé en 2010 du sida.
Oh my god!
Les fesses à l'air, l'émission érotique sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Paris. Nous sommes toujours dans les locaux de Solidarité Sida et on parle du VIH. On va parler à présent de ce que c'est que vivre et aussi d'aimer et de faire l'amour avec le VIH. Et avant de commencer la discussion, un petit florilège de témoignages que j'ai retrouvé sur le site. Je pense que tu as participé à créer, qui s'appelle Parcours Positif, Fred.
Oui, c'est mon site, oui. C'est ça.
Voilà, oui. On écoute ça tout de suite.
Je suis séropositive. Je vis avec le VIH depuis 21 ans. Le médecin m'a dit, vous inquiétez pas, vous n'avez pas le profil. Vous savez, je ne reçois pas beaucoup ici. Le profil ou pas, en tout cas, il m'a annoncé ma séropositivité. Je me rappelle encore vraiment, comme si c'était hier, le jour, et en tout cas le soir où j'ai commencé à prendre cette première pilule. Je commence aujourd'hui et j'en ai pour toute ma vie. Le VIH m'a mis des barrières. J'ai été, en 10 ans, avec l'impossibilité de pouvoir redémarrer une relation. On a ce problème de discrimination par rapport à des personnes qui vont se dire « mais ça va se savoir, demain si je suis mise sous traitement, qu'est-ce qui va se passer quand je vais retourner chez moi ?» Je n'ose pas encore le dire à mes parents ou à ma famille ou à mon mari, enfin je ne sais pas. Et il va falloir que je prenne mes médicaments en cachette. On a encore aujourd'hui des gens qui prennent leurs médicaments en cachette, donc c'est bien parce que vous avez encore peur de dire « vous êtes séropo ».
Je m'appelle Bernard, j'ai 59 ans, je suis originaire du Cameroun. On m'a appris que j'étais malade du sida en 1998. Moi, dans le milieu que je fréquentais, en tant qu'ingénieur électricien, on ne nous sensibilisait pas. Moi, je ne me sentais pas concerné. On nous parlait plutôt de bière, de football ou des choses comme ça. C'est quand je suis tombé gravement malade, j'avais la difficulté à respirer, qu'un médecin m'a informé à l'hôpital que j'avais le sida. Quelques temps après, quand je me suis senti mieux, j'ai commencé à faire le déni. Parfois, je me cachais. Je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Je croyais que le sida était sur mon front. Je suis venu en France en janvier 2003 parce que j'étais en échec de traitement au Cameroun. Je suis venu avec une petite valise. Mais je suis resté jusqu'à ce jour parce que rien que faire des examens, commencer un traitement, ça faisait déjà 6 mois. Je crois que si je n'étais pas venu en France, je devais avoir moins d'une année à vivre.
Je m'appelle Ramona, je suis brésilienne, je suis une femme trans. Et ça fait 16 ans que je suis contaminée par le VIH. J'ai été contaminée chez moi. C'était un ex-petit copain. Il savait qu'elle était contaminée. Il a voulu se venger. J'ai fait confiance à une personne que j'aimais à l'époque. Et quand on aime quelqu'un, on fait l'amour sans préservatif et on ne veut pas savoir qu'est-ce que ça va arriver d'ici 30 ans. Et après, plus jamais je le vis. Je ne sais pas s'il est vivant, mais moi, je suis très vivante.
C'était donc une série de témoignages de personnes atteintes du VIH qui racontent donc leur vie, que vous pouvez retrouver, ainsi que d'autres témoignages sur le site Parcours Positif, donc qui a été créé par Fred. Alors, avant d'aller plus loin, on va aussi se regarder un petit peu d'une certaine manière de l'autre côté, puisque Élodie, tu as vécu le sida de l'autre côté, justement, effectivement. Et dans ta chronique, tu vas nous parler de ton amoureux qui est atteint du VIH.
Ouais, bah c'est cool que je vienne faire une chronique aujourd'hui parce que ça fait un an que je voulais terminer une conversation avec toi, Dania, que j'ai commencé à 1h du mat. Ce genre de conversation que tu connais trop bien, puisque toutes les personnes qui connaissent ton activité d'animatrice à Les Fesses à l'air se mettent à te considérer comme une confidente, sexologue. Ce genre de conversation que j'avais envie d'avoir avec des inconnus pour extérioriser toutes mes émotions et surtout ma honte. Conversation donc à laquelle j'aurais bien aimé que tu me répondes « C'est normal, Lou, t'es un être humain ». Mais tu n'es pas sexologue et on était sous, donc tu m'as répondu « Attends 5 minutes, je vais pisser ». Un an plus tard, on a enfin 5 minutes devant nous. Je reprends donc dans ma confidence hein, de jeune femme très émotive, Dania, mon mec, il est séropositif. Enfin, j'ai plutôt envie de te parler de mon mec de la première fois qu'on s'est rencontrés, quand on a écouté de la musique et qu'on a parlé toute la nuit autour d'un pétard. Il jouait avec ses mains quand il parlait, il était si excitant. J'ai envie de te parler de sa moustache ringarde, de nos 30 ans d'écart, de la sensualité qui dégage.
Oui, mais quand même, le thème de l'émission, Tu sais, c'est le sida.
Alors, je replace le décor. Chambre d'un Airbnb à Genève, tournée avec son projet de musique. Je l'ai rejoint, évidemment. On baise depuis un mois. Il est 6h du mat. On a couché ensemble toute la nuit, devant, derrière. Paume sur le dos, bras entre les cuisses, cuisses autour des hanches. Lui dans moi, moi dans lui. On est encore un peu saoul d'avoir trop bu et de s'être trop aimé. J'allais m'endormir. C'est là qu'il me le dit. J'ai le sida. Un mois qu'on baisse comme des crétins, sans se protéger. Vous imaginez le traumatisme dans mon esprit? Pourquoi il le dit après un mois de rapport sexuel non protégé? Pourquoi il le dit? Pourquoi je l'aime malgré ce qu'il est en train de me faire vivre, mon pire cauchemar? Bah simplement parce qu'il a plus le sida. Il est porteur d'une charge virale négative. Avec le recul, je m'aperçois qu'à cette époque, je ne connaissais rien au sida. Je pensais que j'allais mourir dans les 6 mois. Et là, je fais mes vieux calculs. Je me dis qu'après tout, il a jamais joui en moi. Ce que jusqu'alors, je m'étais expliqué comme une contraception très pratique et très bien maîtrisée. Je ne veux pas qu'il sente ni ma peur, ni mon agressivité, ni ma haine, ni ma honte. Je veux pas qu'il sache que je suis en colère contre lui. Je veux qu'il continue de m'aimer, tant pis si je vis super mal ce qui est en train de se passer. Alors je lui dis ça, je lui dis « de toute manière, tu n'as pas joui en moi ». À son tour de m'expliquer. En effet, il n'éjacule plus dans ses partenaires. Le privilège de l'âge, dit-il, il gère son excitation, c'est encore meilleur. Ça fait 27 ans qu'il a été contaminé, il a pris ses médicaments à certaines périodes, à d'autres il les a pas pris. Là, il les prend, il est en charge virale négative depuis 10 ans. Je fais le calcul. Ce mec en face de moi, avec qui je partage mon intimité, tout nu, avec ses yeux rieurs et sa moustache ridiculement séduisante, en fait, bah, ça fait 27 ans, il s'est entendu dire qu'il lui restait que 4 ans à vivre.
Donc, en fait, tu ne risquais rien ?
Alors j'ai appris à comprendre que oui, dans cette histoire, je risquais rien, que le virus peut ne plus être transmissible, que chaque sida, puisqu'il est lié à une sexualité de chaque personne, est symboliquement différent. Il m'est apparu que ma peur de mourir, c'était pas l'émotion la plus importante non plus, d'abord parce que c'est une maladie silencieuse, que mon partenaire n'avait que très peu d'effets secondaires de la prise des médicaments, et que je l'ai toujours connu en état de charge virale négative. L'émotion avec laquelle j'ai la plus dealé, c'était la honte. Une honte qui a aussitôt résonné avec tous les échos de mes propres injonctions sur la sexualité. Mon partenaire d'amour, avec mon histoire d'amour avec un séropositif, m'a révélé que mon désir s'accompagnait toujours d'une réponse du type « un jour ou l'autre, tu seras puni pour ta sexualité ». La honte, hein, d'être celle qui dit aux hommes qu'elle aimerait bien être baisée, qu'elle aimerait bien être aimée. La honte, hein, d'aimer un homme avec qui j'ai presque 30 ans de différence d'âge, bisexuel tous les deux, dans une relation libre et par-dessus le marché en train de revendiquer de la complicité et de la tendresse. La honte d'avoir le temps de nous toucher, le sexe, de parler de nos désirs, de jouir en se regardant et en se caressant. Et les vieux a priori de mon éducation, s'il a attrapé le sida, est-ce que c'est pas justement à cause de ce plaisir? Est-ce que c'est pas à cause de notre manière de jouir? Et puisque j'aime ça, puisque je reste avec lui, puisque je l'aime, est-ce que je mérite pas aussi le sida? Quand j'ai demandé à ma gynéco son avis sur le fait que nous ne nous protégions pas et qu'au Canada, les médecins autorisaient les patients en charge virale négative à ne pas se protéger, elle m'a répondu « le seul moyen d'être sûr, c'est de le quitter ». Efficace, hein, pour aider sa patiente. Un autre que lui pouvait après tout me transmettre le VIH. Quand mon amie médecin à la retraite me parle des enfants de séropositifs qui naissent grâce à la PMA, elle me dit que ces enfants ne devraient pas exister, que les personnes séropositives profitent d'un luxe médical qu'ils ne méritent pas. Dommage, la fille de mon amoureux existe, et elle est merveilleuse évidemment. C'est comme si la libération sexuelle avait trouvé sa propre limite, son propre dieu punisseur. Vous avez tous les droits pour vous faire plaisir, mais si vous chopez le VIH, les limites du ciel, vous les aurez dépassées. Autrement dit, une nouvelle manifestation de la morale, non plus chrétienne, mais scientifique. Les grands prêtres de la médecine ont le droit de dire si notre sexualité est approuvée ou pas. Avoir une maladie sexuellement transmissible, c'est sûrement qu'on l'a cherchée quelque part. En fait, on peut imaginer et faire les pires choses de sa sexualité, ce n'est pas comme ça qu'on attrape le sida. Par contre, on peut imaginer et faire les pires choses aux séropositifs, ce n'est pas ce qui les empêchera d'avoir des relations sexuelles et amoureuses. 2 ans de relation avec cet homme joyeux, inspirant, infidèle, félin, m'ont bien changé sur bien des plans. Lui qui était malade, il avait un rapport bien plus simple avec la maladie que moi, qui n'ai évidemment jamais été malade. Ça ne s'est pas fini sur un tragique décès comme dans le film de Christophe Honoré, simplement sur un cœur brisé. Et le constat d'une histoire d'amour avec un homme atteint du VIH, ce n'est ni plus ni moins qu'une histoire d'amour.
Merci beaucoup Élodie pour ce témoignage.
C'est beau.
Oui, on est tous un peu émus, hein, finalement. Il y a des choses, effectivement, beaucoup de choses que tu dis dans ce témoignage, effectivement, qu'on voulait aborder dans cette partie, notamment tout ce qui touche au fait d'arriver à avoir une charge virale négative. Peut-être que, Fred, tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe.
Alors, on parle plus de charge virale indétectable que négative. Donc en fait, ça veut dire que le traitement, il a deux effets. Il bloque donc la réplication du virus dans le système immunitaire, ce qui fait que la charge virale, le taux de virus dans le sang diminue, et il fortifie les défenses immunitaires. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, par exemple, ça fait 7-8 ans que je suis sous traitement, donc ma charge virale indétectable, donc c'est comme si le virus était endormi en fait. Voilà. Et donc il ne peut pas se répliquer et il ne peut pas se transmettre. C'est-à-dire que je peux avoir des rapports sexuels sans préservatif, sans transmettre le VIH. Voilà. Et je fais bien le distinguo entre VIH et SIDA, parce qu'il y a souvent une confusion dans l'esprit des gens. Le SIDA, c'est un petit peu voilà, le stade terminal chez les gens qui n'ont pas accès au traitement voilà, et qui ont des maladies opportunes. Moi, je parle bien de VIH. Donc, je suis porteur du VIH, mais voilà, il est endormi, il est dans mes cellules et il n'a pas de raison de se réveiller.
Oui, c'est ce que j'allais te poser voilà. comme question. Ouais. Il n'y a aucune raison qu'il se réveille tant que tu prends le traitement.
Exactement. Voilà. Donc, je prends mon traitement, je suis observant. Il m'arrive même de faire des petites pauses le dimanche, voilà, parce que les traitements sont, on va dire, ils sont très forts, ils sont surdosés même. Donc aujourd'hui, il y a des études sur l'allègement thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit une femme de 1m60 ou un mec de 2m, on prend le même traitement. Voilà. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas de raison effectivement que la charge virale remonte. Il n'y a pas de raison.
Concrètement, les effets secondaires, en quelques mots, c'est quoi ?
Alors, on n'est pas tous égaux par rapport aux effets indésirables. Moi, je préfère parler d'effets indésirables que secondaires, parce que ce n'est pas forcément secondaire dans la vie d'une personne. Mais ça dépend de ton hygiène de vie. Est-ce que tu bois ? Est-ce que tu manges bien ? Est-ce que tu prends des drogues ? Est-ce que tu fais du sport ? Moi, je ne les ressens pas forcément. Peut-être un petit peu sur mon sommeil ou ma digestion, mais il n'y a rien d'handicapant, en fait. Hein. C'est pas, voilà.
Florent, je vous ai vu vivement réagir sur la charge virale négative. Vous savez.
Oui, parce que justement, je trouvais ça très bien d'aborder ce point. Je pense que la majorité des personnes, des auditeurs qui nous écoutent, que ce soit eux ou leur entourage, ne savent pas qu'une personne séropositive qui est sous traitement et qui est observante à son traitement, donc qui prend son traitement, n'est pas contaminante. Chaque auditeur, demandez à votre entourage et vous verrez qu'en fait, la majorité des gens ne le savent pas. Il y a une espèce d'énorme paradoxe, c'est-à-dire que, notamment en France, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le sida s'est banalisé et on le voit bien dans les enquêtes déclaratives. On voit bien que ça fait plus aussi peur que moi, ma génération, dans les années 90, où voilà, on avait peur de ça. Aujourd'hui, on voit bien que ça fait moins peur, ça s'est banalisé, voire même qu'on pense que bah, ça n'existe plus. Et à côté de ça, il y a une peur de la personne porteuse du virus, une peur de la personne séropositive qui est incroyable, alors même que le sida se banalise. Et parce que justement, on n'explique pas assez que, et ça il faut le répéter, donc c'est pour ça que je réagissais comme ça, que d'abord ce sont des êtres humains, comme les autres, et qu'en plus, une personne qui est mise sous traitement, elle n'est pas contaminante. Et puis, du reste, mais ça c'est, on va dire, je sais qu'on va parler prévention après, mais en plus de toucher une personne séropositive, de l'embrasser, ce n'est pas, il n'y a pas de risque de contamination. Et une personne sous traitement, qui est observante, ne contamine pas, et même comme l'a dit Fred, même si elle ne met pas de capote.
Élodie, tu voulais juste réagir.
J'allais faire une blague, c'est pas un risque, mais c'est très excitant d'embrasser une personne, point.
Fred ?
Oui, ben je...
Et pas que d'ailleurs.
Sur aussi cette question de... Du coup, de la sérophobie et de toutes les discriminations qui peuvent toucher les personnes séropositives.
Je rejoins Florent complètement sur ce sujet. En fait, il y a un décalage entre l'avancée scientifique, donc tout ce qui est autour de la charge virale indétectable, la PrEP, etc., et puis ce que les gens savent, en fait, les représentations autour des personnes vivant avec le VIH. Et c'est très compliqué pour les personnes vivant avec le VIH qui veulent faire des rencontres amoureuses ou sexuelles. Par exemple, moi, ça m'est arrivé souvent sur les sites de drague, de gays, sur des applis comme Grindr, Hornet, etc., de tomber sur des mecs qui me demandaient si j'étais clean. Donc là, je leur demandais, mais ça veut dire quoi, clean ? Ça veut dire propre en anglais. Bah, ça veut dire, est-ce que t'es séropo ? Je disais, bah, ouais, je suis séropo, mais je suis en charge virale indétectable, donc je peux pas transmettre le virus. Et en fait, les gens ne comprennent pas, les gens vous bloquent, en fait.
La conversation s'arrête.
C'est ça, exactement. C'est très violent, en fait. La sérophobie, la sérophobie, pour moi, c'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH. C'est quelque chose qui est pas forcément rationnel. Et quelque part, J'en veux pas aux gens parce qu'ils ont peur, ils savent pas ce que c'est en fait. Ils sont restés bloqués dans les années 90, le sida, la mort, la souffrance, etc. Et il y a énormément de pédagogie à faire autour du TASP. Donc le TASP, c'est le terme anglais qui veut dire treatment as prevention. Donc c'est ce qu'a expliqué Florent. Donc le fait
le TASP, donc c'est quand on prend des médicaments de manière à avoir une charge virale indétectable.
C'est ça. Et c'est un mode de prévention en lui-même en fait. Mon mec aime bien dire, parce que moi je suis en couple séro-différent, donc mon mec est séro-négatif. Et en fait, il aime bien dire que je suis son mode de prévention. En fait, il n'a pas besoin de mettre un préservatif puisque je suis indétectable. Donc voilà. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. C'est quelque chose qu'il faut marteler.
Et justement, pour aller dans la suite de ce que disait Fred, c'est que je ne sais pas si on se rend compte que, en fait, les auditeurs, on est les générations qui peuvent connaître la fin du sida. Mmh. Si toutes les personnes séropositives sont mises sous traitement, il n'y a plus de sida. Il n'y aura plus de contamination, puisqu'on vient de le dire. Mmh. Une personne qui est sous traitement et qui prend son traitement régulièrement ne transmet plus. Donc, on casse les chaînes de transmission. Donc, ça veut dire que c'est la fin de l'épidémie. Et ça, on ne le sait pas assez.
Juste un chiffre important. Dans le monde, seulement 58% des personnes atteintes du sida sont sous traitement. Donc, il y a encore une marge de manœuvre, un effort à faire. Et à votre avis, quelle est la solution pour qu'on atteigne le 100%? Parce qu'aujourd'hui, on a la solution.
Il y a le problème de l'épidémie non diagnostiquée. Et en France aussi, hein, on le sait, avec les 25 000 personnes. Le sujet aujourd'hui, c'est le dépistage. En fait, il faut dépister mieux. Aujourd'hui, en France, on dépiste les personnes séronégatives. Voilà. Il faut pas se leurrer. Le jeune couple hétéro de 20 ans qui va dans un Cégide pour arrêter.
C'est un test pour se rassurer, en fait, voilà, tout simplement.
Voilà. En fait, il faut dépister les bonnes personnes. Alors, les assos essayent d'aller dans les lieux de drague, dans les saunas, dans les lieux de prostitution, etc. Mais aujourd'hui, voilà, le problème, c'est l'épidémie non diagnostiquée. C'est les gens qui ne vont pas se faire dépister.
Florent.
Et sur la question, donc il y a effectivement le gros problème du dépistage. Et après, effectivement, il y a des disparités énormes en France. Globalement, on va dire 85% des personnes porteuses du virus sont mises sous traitement. Vous allez dans un pays comme le Togo, c'est 40%. Vous allez à Madagascar, c'est 7%. Je parlais tout à l'heure du Maghreb et du Moyen-Orient. La moyenne, c'est 25% seulement des personnes séropositives ont accès au traitement. Là, en 2019, hein, au moment où on se parle. Parce que ce sont des pays où il n'y a pas le même système de santé que la France. La sécurité sociale qu'on connaît tous. Alors en France, certains malheureusement ne connaissent pas la protection universelle, mais dans des pays, ça n'existe même pas, la sécurité sociale. Donc les médicaments ne sont pas pris en charge. Et donc ça veut dire que c'est à la responsabilité de l'État. Et c'est pour ça qu'a été créé ce qu'on appelle le Fonds mondial en 2002, à l'initiative de la France et des États-Unis. On a créé ce qu'on appelle moi je dis souvent c'est le pot commun. À l'époque, c'était Chirac qui avait dit, lors d'une réunion G7, qui avait dit, mais Si on ne fait rien, la majorité des pays dans le monde ne pourront pas prendre en charge les personnes séropositives. Et donc il faut une solidarité internationale, il faut que les États riches mettent de l'argent pour financer des traitements pour les pays dits du Sud qui, n'ont pas les moyens de prendre en charge ces traitements. Et c'est notamment grâce au Fonds mondial qu'on a pu augmenter le nombre de personnes qui sont mises sous traitement. Mais aujourd'hui, le chemin est encore long, souvent parce qu'on n'a pas assez de moyens financiers pour payer les traitements pour tout le monde.
On va continuer à parler du sida et de tout ce qui peut être mis en place par rapport à la prévention, juste après une petite pause musicale.
Si seulement elle savait comment tu la regardais, elle serait effrayée. Si seulement elle savait comment tu l'imaginais, elle pourrait t'abîmer. Mais laisse temps, elle pourrait vous donner une chance de vous retrouver. Il lui faudra du temps, c'est sûr, pour oublier tous ses préjugés. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Si de run c'est pas trop accepté, mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi le roi tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Si seulement elle savait comment tu l'envisageais, même si t'es une fille. Si seulement elle savait comment tu pourrais l'aimer tellement plus que
Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Même si de reine c'est pas trop accepté. Mais tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Toi les rois tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Mais tu voudrais.
C'était Angèle qui nous chantait du coup une chanson nommée Marraine et qui est la petite voix dans l'oreillette me dit la tête d'affiche des Solidays.
C'était ma voix en fait, Loane.
C'est ça.
Tout à fait, effectivement. Angèle qui fait partie de la programmation donc, de Solidays 2019 du 21 au 23 à Longchamp et elle sera là notamment le dimanche. Donc on est très contents de la recevoir puisque c'est quand même l'artiste, une des artistes de l'année en France et qui en plus au-delà de l'aspect musical a des textes engagés.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Et on va finir cette émission en parlant de tout ce qui est fait en matière de prévention. Mais avant de commencer, on retourne voir nos copains Fred et Jamy qui, à leur époque, l'émission date des années 90, faisaient déjà un peu de prévention.
Bon alors, important à préciser, le virus du sida, c'est pas contagieux comme la grippe par exemple.
Ça transmet pas pareil, hein.
Eh ben tu vas nous expliquer ça, moi je vais faire mon enquête au lycée d'à côté, hein.
Ouais, ouais. Bon bah, alors il y a deux modes de transmission. Il y a le sang, et puis les...
Et quoi?
Les relations sexuelles.
J'ai rien entendu, Jamy, plus fort.
Les relations sexuelles. Alors, pourquoi les relations sexuelles? Eh ben il se trouve où, le virus? Chez les garçons, il est dans le sperme, chez les filles, dans les sécrétions vaginales. Maintenant, comment passe-t-il d'un organisme à un autre? Eh bien, au cours d'un rapport sexuel, ces organes sexuels sont en contact avec le sperme et les sécrétions vaginales. Or, les organes sexuels, ils sont tapissés par une fine membrane, une muqueuse, qui n'est pas parfaitement imperméable. Elle laisse passer le VIH. Voilà comment le virus se transmet.
Et voilà, c'était du coup un petit cours de prévention à l'époque par Fred et Jamy qui avaient du mal à parler de relations sexuelles, hein, comme on l'a pu l'entendre. Je me tourne vers toi, Pauline, donc tu es coordinatrice, je vais y arriver, de la prévention à Solidarité Sida. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait mieux que Fred et Jamy dans les années 90?
Alors, je ne sais pas si on fait mieux, mais en tout cas, on essaie de se débrouiller. Bon, si on écoute un peu Fred et Jamy, c'est un peu old school. Hein, on explique en gros qu'il y a un liquide, une porte d'entrée et qu'il y a un risque. Effectivement, nous aussi, ça on l'explique en intervention. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la prévention, eh ben, on a besoin de parler de santé sexuelle. Parler de santé sexuelle, ça veut dire qu'on ne va pas juste parler des risques sanitaires. Parce que ça ne parle pas aux gens. Hein. On ne va pas dire, si tu fais ça, il y a tel risque, du coup, je ne vais pas le faire. Ben non, parce qu'autour de tout ça, il y a le plaisir, il y a le désir, il y a la rencontre de l'autre. Et ça, c'est aussi très important. Et c'est important vraiment d'en parler aux jeunes. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à Solidarité Sida dans nos programmes de prévention. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir en fait, à faire reculer les contaminations et reculer aussi l'épidémie. Donc nous, dans nos programmes de prévention, on essaye d'avoir des approches ludiques, interactives, qui vont parler aux jeunes. On va essayer de les faire rigoler aussi, parce que c'est pas que des sujets graves, et c'est important de le dire aussi. Et parler de discrimination, on en a parlé tout à l'heure énormément. Aujourd'hui, la prise thérapeutique, elle a été énormément allégée. mais il faut aussi parler de tout ce qui peut se passer autour dans le côté social aussi.
Et concrètement, quel message clé vous faites passer aux jeunes que vous allez voir? Du coup, quoi, collège, lycée?
Alors nous, on est plutôt sur les lycéens et après, on va être plutôt focalisé sur les jeunes en général. Donc, on va avoir des programmes de prévention à destination, effectivement, des lycéens. Mais Solidaise aussi, c'est un formidable outil pour sensibiliser. On a plusieurs outils qui nous permettent de le faire. L'exposition Sex in the City, qui est un parcours de prévention imaginé par nos équipes. On va vraiment parler plaisir, désir. On va vraiment placer le festivalier au cœur de tout ce qu'il aurait pu imaginer ou ne pas imaginer dans la sexualité pour après aborder le risque, puis la prévention. En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à capter les gens, tout simplement. Parce que
c'est
la sexualité...
Dire, voilà, la sexualité, c'est cool, allons-y, mais il y a quand même un mais.
Bah, l'idée, c'est plus de partir de l'individu, en fait. Parce qu'on n'est pas toutes et tous pareils, on n'a pas toutes et tous les mêmes désirs, les mêmes fantasmes, le même rapport aux choses, et même aux risques, en fait. Et ça, c'est important de le dire. Si aujourd'hui, on va être dans une prévention efficace, on en a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle, entre guillemets, les chevaliers de la capote, le tout capote, ça fonctionne pas forcément avec
c'est
tout le monde.
C'est quoi juste les chevaliers de la capote?
Les chevaliers de la capote, c'est ceux qui vont penser que le fait d'imposer un préservatif à chaque individu, c'est la méthode en soi qui va permettre aujourd'hui d'éviter que les contaminations continuent. Mais on le voit, les gens, ils le savent qu'il faut mettre un préservatif. Mais pourquoi, par moment, il y a des échecs en stratégie de prévention? C'est parce qu'on leur propose pas une prévention qui est adaptée à eux, à leur mode de vie, à leur désir, à leur plaisir. On le sait tous qu'il faut se protéger. Ça, je pense que le message, il est passé. Pourquoi les contaminations continuent? Parce que peut-être qu'on n'a pas proposé aux gens la meilleure méthode de prévention qui est adaptée à leur situation dans une méthode donnée.
Et justement, donc il y a le préservatif, on a parlé du traitement comme prévention. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé rapidement de la PrEP tout à l'heure. Est-ce que ça aussi, c'est une méthode de prévention, peut-être, Fred?
Oui, bien sûr. La PrEP, c'est un outil révolutionnaire dans le sens... où ça a fait ses preuves à Londres, à San Francisco, etc. C'est une molécule qui permet de bloquer l'entrée du virus dans le système. Donc on n'a pas besoin de préservatif, voilà. Et pour les gens qui ont du mal à mettre un préservatif pour diverses raisons, soit parce qu'ils ont du mal à bander avec un préservatif, soit parce qu'ils sont travailleuses ou travailleurs du sexe et c'est compliqué de négocier un préservatif, soit parce qu'ils sont ils ont pris de l'alcool ou des drogues et que c'est compliqué, voilà, dans une partouze. Il y a plein de raisons qui fait qu'on peut pas toujours mettre un préservatif. Donc plutôt que d'être dans un jugement moral en disant c'est pas bien, il faut mettre une capote, on va proposer une alternative, voilà, avec la PrEP qui est un outil qui est pas forcément pour tout le monde, mais qui est très efficace et qui aussi, ce qui est intéressant avec la PrEP, c'est que aujourd'hui, peut-être qu'à 20, 25 ans, tu prends des risques et que voilà, tu sais que tu prends des drogues, de l'alcool, etc. La PrEP, ça va être pour toi. Peut-être que dans 5 ans, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas être dans un couple exclusif, etc. Tu vas arrêter la PrEP. C'est ça qui est intéressant
et
avec
juste,
la PrEP.
La PrEP, c'est un... Quoi, c'est un cachet qu'on prend avant de faire l'amour?
C'est un cachet, en fait, voilà. C'est une molécule que prennent, qui fait partie de la trithérapie pour les personnes vivant avec le VIH, et donc qui se prend avant un rapport à risque. Donc il y a deux façons de prendre la PrEP, soit en continu, donc tous les jours, ce qu'on appelle la PrEP en continu, pour ceux qui ont peur d'oublier ou qui ont beaucoup de rapports à risque, soit de façon intermittente, c'est-à-dire par exemple, si tu sais que tu vas prendre des risques que le week-end, tu commences le jeudi ou le vendredi jusqu'au lundi, et tu continues jusqu'à ce qu'il y ait des rapports à risque, en fait.
Juste, c'est donc les personnes séronégatives ou...
C'est les personnes séronégatives qui prennent la PrEP, oui,
okay.
Tout à fait.
Très bien. Rapidement, Daniel.
Rapidement, pourtant aujourd'hui, 20% des jeunes considèrent être mal informés sur le sida. Un nombre important de jeunes pensent qu'il suffit de prendre la pilule du lendemain ou la pilule contraceptive pour ne pas attraper le sida, etc. etc. Ils ne connaissent pas les modes de transmission. C'est quoi la solution? Continuer à faire des campagnes, faire plus d'éducation sexuelle? Comment on fait?
Ce qui serait important, c'est que aujourd'hui, on sait que l'éducation nationale essaye de mettre en place des dispositifs pour qu'il y ait plus de prévention qui soit fait en milieu scolaire. Mais on voit que les textes de loi, en fait, aujourd'hui, ils ne sont pas respectés, puisque la circulaire de 2003, en fait, oblige normalement les établissements scolaires à faire en sorte que chaque élève, de la primaire au lycée, ait 3 fois 2 heures d'éducation à la sexualité. Et on voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Nous, les lycéens qu'on voit, la plupart, ils n'ont jamais eu en fait d'action de prévention. Donc finalement, on est les premiers interlocuteurs en milieu scolaire pour en discuter. Et parfois, ce qui est fait, ça va être au niveau du cours de SVT, mais on va envisager la sexualité sous un angle reproductif. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui utilisent la sexualité pour se reproduire. Sinon, aujourd'hui, l'espèce humaine serait disparue. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Et c'est ça qui est important de discuter avec les élèves. C'est qu'il faut... faut pas avoir peur en fait de parler de plaisir et de désir. Je le redis encore, hein, c'est un petit peu le maître mot, mais la sexualité n'est pas axée uniquement sur la reproduction. Et tant qu'on n'arrivera pas en fait à dépasser ce gap-là, on ne sera pas en mesure de faire une prévention qui soit efficace en fait pour les jeunes. Donc à Solidarité SIDA, nous on essaie de renforcer ces dispositifs, de proposer des programmes de prévention qui vont être gratuits pour les établissements scolaires. On intervient sur plusieurs régions en France. On organise des grands événements où on va parler de tout ça. De manière ludique, avec humour, on les invite dans des salles de spectacle. L'idée, c'est un petit peu aussi de sortir le jeune dans ce qu'il a l'habitude. En fait, la plupart des jeunes qu'on rencontre, ils vont nous dire « Ouais, mais madame, je sais, il faut mettre une capote. On l'a vu au collège, ils ont sorti une banane, etc. » La fameuse banane que peut-être tout le monde a déjà vue. Moi, personnellement, c'était pas sur une banane quand j'étais au collège. On m'a uniquement parlé de la pilule du lendemain et de la contraception. Moi-même, par rapport à ma sexualité, je ne suis pas concernée. Donc, on peut voir à quel point la prévention, parfois, elle est inefficace, en fait, tout simplement... quand c'est fait de manière pas adaptée. Mais ce qui est important, c'est de faire un petit peu rêver les jeunes. La prévention, c'est pas quelque chose de chiant. En fait, on peut aussi rigoler de tout ça et avoir des messages derrière qui vont être constructifs et adaptés. Et finalement, les gens, ils vont dire « Ah, mais je pensais que vous alliez me dire que c'est pas bien parce que j'ai pris un risque. » Non, en fait, on va juste... te montrer le panel de choix qui s'offre à toi. On parlait tout à l'heure, par exemple, de ne pas mettre de préservatif parce qu'on peut débander. Bah, nous, un conseil tout simple qu'on donne aux gens qu'on rencontre, alors pas forcément en milieu scolaire, mais sur un public un petit peu plus âgé, bah, juste le fait, par exemple, de mettre un cock ring, un anneau qui va permettre en fait, d'avoir un meilleur afflux sanguin au niveau du pénis, ça permet de ne pas perdre l'érection. Et si le problème de perte d'érection, c'est ce qui empêchait le fait de mettre un préservatif, juste avec cette méthode de réduction des risques, on arrive à avoir des messages qui vont être cohérents. Et après, si c'est autre chose, eh ben, on va les orienter vers un autre dispositif.
Merci beaucoup. Peut-être un tout petit dernier mot, Fred, en deux mots.
En deux mots. Je voulais juste rebondir à ce que tu disais par rapport à la nouvelle façon de faire de la prévention. Nous, avec Vers Paris Sans Sida, on a mis en place un personnage qui s'appelle Dr Naked. Donc, c'est un faux médecin qui est à moitié à poil, qui est plutôt beau gosse, avec une belle barbe, etc. Et qui fait de la prévention et qui parle de capote, de PrEP, de TASP, etc. Et en fait, on essaye de capter l'attention du public gay, surtout pour le coup, avec ce personnage. Parce que mais pas que, hein, voilà.
Parce que beaucoup sur des applis de rencontres.
Pas que là, on a lancé une page Facebook et une page Instagram en fait.
Et tu sais qui sera à Solidize d'ailleurs, Dr Naked.
Je sais, ben oui, c'est moi qui m'en occupe. C'est un peu mon boulot. Et du coup, l'idée avec ce Dr Naked, c'est de capter l'attention des mecs qui sont pas abonnés à Aide, à SIDAction, à Solidarité SIDA, etc. Et qui du coup manquent d'informations. Voilà. Donc ils vont liker le Dr Naked sur Instagram ou Facebook parce qu'il est à moitié à poil. Mais quelque part, d'ailleurs, on va essayer de passer des messages de prévention de façon subtile, de façon détournée, de façon rigolote. Voilà. C'est faire de la prévention un peu fun et c'est une nouvelle façon de faire de la prévention en fait.
Très bien, merci Florent, beaucoup.
Vous vouliez dire un petit mot ?
Non, mais Fred vient de le dire effectivement, que c'est surtout que la prévention ça peut être fun.
Bah oui.
Donc il faut arrêter de penser que c'est juste un discours moralisateur, culpabilisant.
Exactement.
On dit non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, nous, Pauline l'a démontré, quand on fait des actions de prévention, on aborde ça de manière positive. En fait, c'est d'abord.
D'ailleurs, du plaisir.
Il y a une définition de l'OMS qui dit que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, mental, et c'est d'abord du plaisir. Et après, on aborde les risques pour soi, pour les autres, mais c'est d'abord du plaisir. Et une fois qu'on est bien informé, on peut kiffer. Donc, c'est ça qui est important.
Merci à tous les trois. Merci à Florent Maréchal et à Pauline Duverger de Solidarité SIDA. Et merci à Fred Le Breton de Vers Paris Sans SIDA d'être venu pour discuter avec nous de tout ça. Je pense que c'était plus que nécessaire. Merci à toute l'équipe de Radio Campus Paris, Lorna, Elodie, Dania, Maxime, qui sont venus pour soutenir. Bref, oui, pour soutenir. Et puis à tout le public présent en nombre ce soir dans cette petite pièce des locaux de Solidarité SIDA. Les Solidays, c'est le 23 juin
à l'Hippodrome de Longchamp. Et juste une petite précision. Il n'y a plus de passe en vente puisque nous affichons complet.
Et bravo.
Oui, on est assez contents. D'autant plus que c'est aussi un outil de récolte de fonds pour financer des programmes de prévention et d'aide aux malades dont on vient de parler. Néanmoins, il peut y avoir des fois des reventes aussi. Je parle de reventes légales et ça c'est sur The Pass. Et uniquement sur ce site. Tous les autres billets ne sont pas acceptés, mais voilà, on ne sait jamais. Des personnes qui ont des annulations et qui revendent leurs billets. Venez, l'Hippodrome de Longchamp, 3 jours de musique, de plaisir pour donner des couleurs à la fête et du sens aussi à tout ça et à la solidarité, à la santé sexuelle.
Merci et bonne soirée à tous sur les ondes de Radio Campus Paris.